VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 GMT, Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 9 mars 2017. John Linden en direct de Washington au sommaire ce soir. Cameroun, un nouvel accident ferroviaire impliquant la compagnie Kemray est survenu hier, bilan 3 morts. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika va très bien. Déclaration du premier ministre Abdelmalek Sélal lors d'une conférence de presse ce jeudi. Les interpellations d'immigrés clandestins à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont chuté de 40%. C'est ce qu'affirme le gouvernement. Et puis, retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Nouvel accident ferroviaire au Cameroun impliquant la compagnie Kemray, filiale du groupe français Bolloré. Un de ses trains affectés aux travaux de renouvellement de la voie ferrée a tué 3 passants hier soir à Yaoundé. Les détails avec Jacques Aristide.
Dans un communiqué, Camrail précise que le train de travaux de retour du chantier à l'entrée de la capitale camerounaise a percuté plusieurs personnes sur la voie ferrée. L'opérateur a fait état d'un corps retrouvé sur la voie et d'un autre récupéré par une famille avant l'arrivée des secours, alors qu'un blessé a rendu l'âme à l'hôpital où ont été admis également 2 autres blessés. Ce bilan est toutefois remis en question sur les réseaux sociaux, certains estimant qu'il est en deçà de la réalité. C'est donc une nouvelle polémique que provoque cette tragédie après le déraillement qui avait fait près de 80 morts en octobre dernier à Ezeka entre Yaoundé et Douala. La Fondation camerounaise des consommateurs se demande si une locomotive doit rouler dans la nuit sans phare ni klaxon. Un responsable de Camrail répond que le train klaxonne là où il y a un passage à niveau et qu'il n'en avait pas sur le lieu de l'accident. Tout en présentant ses sincères condoléances, la société ferroviaire rappelle que la circulation des personnes sur la voie ferrée est interdite.
Au Kenya, les hôpitaux ont commencé aujourd'hui à licencier des médecins ayant participé à une série de grèves pour demander une hausse de salaire. Les précisions de Tatiana Mosso.
12 médecins du principal hôpital du Kenya, le Kenyatta National Hospital, ont été licenciés ce matin pour avoir participé aux grèves qui durent depuis le mois de décembre. L'inquiétude désormais est de savoir quelle va être la suite des événements. De nouvelles vagues de licenciements auront-elles lieu dès lundi? Les administrations des hôpitaux kenyans ont fait savoir leur ras-le-bol en renvoyant ces 12 médecins. Ces hôpitaux sont paralysés depuis des mois par cette grève dont l'objectif est de réclamer une augmentation de salaire de 50% et de meilleures conditions de travail pour les docteurs et le personnel soignant. Ce licenciement intervient alors que le syndicat des médecins souhaite la signature de documents pour mettre fin à cette impasse et demander au gouvernement de faire de même. Cependant, les autorités ont fait savoir que le délai pour accepter l'augmentation de 40% proposée par le gouvernement a expiré il y a 2 jours.
Le premier ministre algérien Abdelmalek Sélal a assuré jeudi à Tunis que le président Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé fait régulièrement l'objet de spéculations, allait très bien. Interrogé par un journaliste sur ce point lors d'une conférence de presse, M. Sélal a répliqué « Il vous passe le bonjour et il va très bien ». Il s'agit de la première déclaration officielle depuis que la présidence algérienne a annoncé le 20 février le report d'une visite à Alger de la chancelière allemande Angela Merkel en expliquant par une indisponibilité temporaire du chef de l'État due à une bronchite. Les autorités marocaines ont arrêté jeudi 2 membres présumés de l'organisation État islamique accusés de planifier des attentats dans le pays, a-t-on appris de sources officielles. Menée par le Bureau central des investigations judiciaires, cette opération a également permis la saisie de divers matériels et équipements suspectés d'être utilisés dans la fabrication de charges explosives, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Au moins 5 personnes sont mortes et plus de 12 000 sinistrées à Madagascar après le passage du cyclone Enao. Selon un nouveau bilan communiqué par le Bureau national de gestion des catastrophes, le BNGC, dans la nuit de mercredi à jeudi, selon la Croix-Rouge, il s'agit du plus puissant cyclone qui frappe Madagascar depuis le cyclone Giovanna en 2012. Les autorités gambiennes ont exhumé le corps d'un opposant au régime de Yahya Jammeh, dont la mort en détention en avril 2016 a suscité une série de manifestations politiques dans le pays, a-t-on appris jeudi auprès de la police. Solo Sandeng, un responsable du Parti démocratique unifié, l'UDP, alors principale formation de l'opposition au président Jammeh, avait été arrêté le 14 avril 2016 avec plusieurs autres personnes lors d'un rassemblement pour réclamer des réformes politiques. Il est décédé peu après son arrestation par l'Agence nationale du renseignement, rebaptisée Service de renseignement d'État par le nouveau président Adama Barrow, élu en décembre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les États-Unis ont déployé une batterie d'artillerie des marines pour appuyer l'offensive sur Raqqa, une opération qui montre l'engagement croissant des Américains en Syrie. Claire Morin-Gibault.
Après Minjeb, dans le nord du pays, les militaires américains renforcent leur présence autour de Raqqa, la capitale autoproclamée du groupe État islamique. Selon Reuters, ce sont 400 hommes qui accompagnent la batterie d'artillerie et ses canons de 155 mm. Un responsable américain a confirmé que ses troupes étaient prêtes à conduire leur mission de soutien à l'offensive sur Raqqa, confirmant ainsi les informations parues dans le Washington Post. Les 500 militaires américains présents jusqu'ici en Syrie étaient cantonnés à un rôle de conseil des forces locales, se battant contre le groupe État islamique, principalement l'Alliance arabo-kurde FDS, les forces démocratiques syriennes. L'offensive sur Raqqa a été lancée à l'automne dernier et les FDS sont désormais à proximité de la ville. Elles ont coupé les principaux axes de communication de Raqqa avec l'extérieur, ouvrant la voie, selon les militaires américains, au lancement de l'assaut final.
Immigration aux États-Unis, le gouvernement dit avoir enregistré une baisse de 40% des interpellations de clandestins à la frontière mexicaine en février. Preuve, selon les autorités, que la politique migratoire du président Donald Trump fonctionne, estime le ministre de la Sécurité intérieure John Kelly. Les détails avec Morgan Guiriec.
La baisse du nombre des interpellations montre un changement de tendance marqué, affirme John Kelly. D'habitude, selon les chiffres du ministère, les interpellations d'immigrés clandestins par la police aux frontières américaines progressent de 10 à 20% chaque année entre janvier et février. Au contraire, cette année, nous avons vu une baisse du nombre des interpellations de 31 578 à 18 762, soit une diminution de 40%, insiste le ministre de la Sécurité intérieure. La dissuasion et l'application effective des textes en matière d'immigration a donc un impact, se réjouit-il. Donald Trump a esquissé le mois dernier devant le Congrès les contours d'une réforme du système d'immigration aux États-Unis qui doit consister selon lui à privilégier les immigrants les plus qualifiés et à faire preuve de fermeté avec les clandestins. Pourtant, quelques heures avant son discours, Donald Trump avait évoqué devant des journalistes à la Maison-Blanche la possibilité d'une loi de régularisation pour les sans-papiers n'ayant pas commis de délit.
Emmanuel Macron, en forte hausse dont les intentions de vote pour la présidentielle en France dépasse pour la première fois Marine Le Pen au premier tour selon une enquête Harris Interactive publiée ce jeudi. Avec un gain de 6 points en deux semaines, le fondateur d'En Marche réunit 26% des intentions de vote contre 25% pour la présidente du Front National qui reste stable selon ce sondage réalisé pour France Télévisions. Au second tour, l'ex-ministre de l'économie l'emporterait largement sur la présidente du Front national avec 65% des voix contre 35%. Une députée du Hamas, membre du Parlement palestinien, a été arrêtée mercredi soir à son domicile près de Hébron par les forces israéliennes, ont rapporté jeudi des sources de sécurité palestinienne et le service de sécurité intérieure israélien. Selon le club des prisonniers palestiniens, 9 autres membres du Parlement palestinien qui comptent 132 députés sont actuellement détenus par Israël. Le chef de la diplomatie britannique estime par ailleurs que l'alternative à une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien est un système d'apartheid dans une interview publiée jeudi dans le quotidien Jerusalem Post. Boris Johnson a bouclé mercredi soir une visite de 24 heures en Israël et dans les territoires palestiniens au cours de laquelle il a affirmé le ferme soutien britannique à Israël et critiquer la colonisation israélienne. Une femme belge de 24 ans, soupçonnée d'avoir apporté son aide à des personnes qui avaient l'intention de commettre un attentat en Europe, a été arrêtée en Belgique au cours d'une perquisition et inculpée pour participation aux activités d'un groupe terroriste, a annoncé jeudi le parquet fédéral. La Belgique reste en état d'alerte à l'approche du premier anniversaire des attentats du 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles-Saventem et du métro bruxellois qui avait fait 32 morts et des centaines de blessés. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Tunisair, la compagnie nationale tunisienne, a annoncé la reprise partielle et progressive de ses vols après avoir cloué au sol durant plusieurs heures l'ensemble de sa flotte en raison de vives tensions sociales. Une bagarre avait éclaté peu auparavant entre personnel navigant et technique. D'après Tunisair, des mesures transitoires fermes ont été prises dans l'attente des résultats de l'enquête administrative. Récemment, des mécaniciens ont tenu un sit-in devant le siège du syndicat UGTT pour dénoncer la façon dont ils sont traités par les pilotes. Le Burkina Faso vient d'entamer les travaux de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, situé à Kongoussi, dans le centre du pays. Grâce à un financement de 10 milliards de francs CFA de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Réputé pour sa production de haricots verts, le lac Bam produisait plus de 3000 tonnes de cette légumineuse par an, une production tombée à environ 900 tonnes actuellement à cause de l'envasement du lac. Malgré l'accord de renouvellement de la concession de Veolia au Gabon, les autorités de Libreville ont vivement attaqué la gestion du groupe français. Dans le quotidien L'Union, le ministre de l'Énergie a dénoncé une situation proche de la catastrophe. Dans une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, les responsables de Veolia se disent surpris et déçus de cette attaque par voie de presse.
Eh bien, une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Et ce jeudi, les huitièmes de finale de l'Europa League.
Et oui, coup d'envoi à 18h temps universel, Manchester United et José Mourinho qui vont défier Rostov en Russie. Le FC Copenhague accueille l'Ajax d'Amsterdam et Anderlecht qui se déplace à Chypre face à l'Apoel Nicosie. Puis à 20h temps universel, coup d'envoi du choc germano-allemand entre Schalke 04 et Mönchengladbach. En Belgique, le derby entre la Gantoise et Genk, l'opposition entre Lyon et l'AS Rome, le Celta Vigo qui accueille Krasnodar et le Beşiktaş en déplacement à l'Olympiakos.
On revient sur l'incroyable qualification du FC Barcelone en Ligue des Champions.
Ah oui, tout le monde en parle encore, cet exploit de Barcelone qui a réussi à remonter 6-1 alors qu'à l'aller, il s'était incliné 4-0 face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Le Camp Nou était en feu hier soir. Barcelone entre dans l'histoire. Jamais un club n'avait réussi à se qualifier après avoir été battu 4-0 à l'aller. Quant au Borussia Dortmund, il s'est aussi qualifié pour les quarts de finale en battant 4-0 à domicile Benfica grâce notamment à un triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.
Le dernier classement FIFA, pas de changement en tête.
L'Argentine occupe toujours la tête du nouveau classement FIFA, publié aujourd'hui, devant le Brésil, deuxième, et l'Allemagne, troisième, dans un top 10 mondial totalement inchangé. Seuls 4 matchs internationaux ont été pris en compte pour ce classement mensuel par rapport au précédent. La Pologne, sans jouer, a gagné une place au 12e rang. C'est le meilleur classement de son histoire, juste devant l'Angleterre, qui recule à la 14e place. De leur côté, la République tchèque, l'Égypte, finaliste malheureux de la CAN contre le Cameroun, ou encore le Sénégal, enregistre les meilleures progressions dans les 50 meilleures nations mondiales de football.
NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State traverse une mauvaise passe. Les Warriors, catastrophiques en fin de match, ont concédé leur 3e défaite en 10 jours, 99-86. C'était hier face à Boston. Les Spurs de San Antonio ont signé leur 9e victoire de suite contre Sacramento, 114-104.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent. Au dossier du jour, et on commence par les États-Unis où les mesures migratoires du président Donald Trump commencent à affecter la vie dans les localités frontalières américaines et mexicaines. C'est le cas des villes jumelles de Nogales qui, en dehors d'avoir le même nom, ont une longue histoire commune. Le reportage de Ramon Taylor à Nogales, Mexique, présenté par Lionel Gaïma.
Situé de part et autre de la frontière entre l'État américain de l'Arizona et celui de Sonoma au Mexique, Nogales, États-Unis, et Nogales, Mexique, sont séparés par une barrière métallique à un point de passage. Elles ont, au fil des ans, développé une riche histoire d'échanges culturels et commerciaux. Leurs maires se connaissent et leurs populations se fréquentent sans problème. Aujourd'hui, l'imminence de l'expulsion massive des sans-papiers mexicains par l'administration Trump fait planer un gros nuage sur ses bonnes relations. D'autant plus que dans l'état de Sonoma, Nogales, Mexique, est le principal centre d'accueil des immigrants expulsés, explique son maire, Remo Galindo. Nous enregistrons en moyenne 50 à 70 expulsés quotidiennement, mais ce chiffre risque de grimper pour atteindre 500 à 700 par jour, une situation que nous avons déjà vécue par le passé. Cela posera d'énormes problèmes, fait remarquer de son côté le journaliste mexicain Ortiz
Alonso. Comment alimenter ces gens,
comment alimenter tous ces gens, comment leur trouver des emplois et comment les loger, car tout le monde n'est pas criminel. Ce sont des sans-papiers expulsés qui ont besoin de travailler, de survivre
ici.
Les relations commerciales bilatérales demeurent fortes au niveau local, mais les décisions du président des États-Unis pourraient les compromettre à affecter négativement les investissements américains au Mexique, s'inquiète le maire Temo Galindo. Son homologue John Doyle de Nogales, États-Unis, partage ses préoccupations.
Il y a un certain élément de peur encore.
Il y a une certaine peur qui plane sur nos deux communautés, particulièrement du côté mexicain. Des gens en règle et qui peuvent franchir la frontière pour leurs achats se demandent maintenant s'ils seront intimidés ou même maltraités, si leurs papiers leur seront arrachés sans raison. L'incertitude n'est jamais bonne pour les affaires. Aussi, les maires de Nogales, États-Unis et Nogales, Mexique, tentent tant bien que mal de préserver leurs bonnes relations de travail face à des lendemains incertains.
Les flambées de violence anti-immigrés en Afrique du Sud continuent d'inquiéter la diaspora africaine vivant dans le pays. Ce sont des millions d'étrangers qui se sentent en danger, eux qui sont souvent accusés, dans un contexte de fort chômage, de voler le travail de la population locale et de nourrir la criminalité. Pour Marc Niafou, président de la diaspora africaine d'Afrique du Sud, les autorités sud-africaines ainsi que les partis politiques doivent prendre leurs responsabilités. Il est joint à Johannesburg par Arzuma Kampaoré.
Nous demandons aux partis politiques de venir clairement dire leur position par rapport aux attaques sur les migrants. Vous allez voir que le parti, le DIE, qui est le parti de Man Machaba aujourd'hui, n'a pas une position officielle sur les attaques des migrants, alors qu'ils savent que c'est un maire DIE, donc Democratic Alliance, comme on dit, qui a incité cette violence-là. La diaspora africaine lui a demandé de retirer ce qu'il a dit et de s'excuser auprès de toute la nation sud-africaine. Il a refusé de le faire, il dit qu'il ne voit pas, il ne voit aucun mal en ce qu'il a dit. Donc le lendemain, on a été ouvrir, le 2 mars, on a été ouvrir, déposer une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme sud-africaine.
Quel est le climat général qui prévaut au niveau de l'Afrique du Sud?
Le climat général, c'est que les migrants en Afrique du Sud vivent dans une peur totale parce que le gouvernement ne prend pas des mesures assez strictes pour décourager ceux qui incitent à la violence. 150 personnes, 200 personnes peuvent aller attaquer une boutique devant tout le monde, aux yeux et au-dessus de tout le monde. Et il n'y a aucun policier qui vienne arrêter un seul individu. Les statistiques montrent qu'en 5 mois, il y a eu 14 363 personnes qui ont été tuées et mais par violence qu'on tue. C'est pas des gens qui ont été malades qui ont été tués. C'est par violence. Et 14 300, c'est comme le pays était en guerre.
La diaspora africaine sur place, comment elle s'organise face à cette situation?
Nous avons une ligne, cette ligne téléphonique aujourd'hui, c'est en moyenne 90 appels par jour que nous recevons. Automatiquement, quand nous sommes informés, nous alertons le ministère de la police et automatiquement, la police est déployée dans cette région-là. Nous sommes dans un pays étranger qui nous a accueillis. C'est au gouvernement de nous protéger. Il y a quelques 2-3 jours, nous sommes en train encore de travailler sur ce dossier. Il y a eu des groupes de mineurs qui ont réagi. Ils ont tué des Zoulous, par exemple, dans un foyer de mines. Les Zoulous ont réagi. Ils ont tué 12 personnes. En fait, c'est ces réactions-là. On ne veut pas que ça arrive là. On veut que le gouvernement donne un programme clair de protection de tout le monde, que ce soit sud-africain ou migrant.
Marc Niafou, président de la diaspora africaine d'Afrique du Sud, joint à Johannesburg par Arzuma Compaoré.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, le mariage précoce continue d'avoir lieu dans de nombreux quartiers populaires du pays, selon les associations de lutte contre les violences faites aux femmes ou des défenses des droits des femmes. Ces ONG mènent aussi des campagnes contre ce fléau qui compromet la scolarisation des jeunes filles. Reportage au quartier Briqueterie à Yaoundé avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap.
Nous sommes dans l'enceinte de l'école franco-arabe du quartier Briqueterie à Yaoundé. Quelques jeunes filles voilées s'apprêtent à prier. Elles ont entre 9 et 11 ans. À cet âge-là, certaines jeunes filles ont été mariées précocement dans le quartier Briqueterie. Le mariage précoce n'est donc pas un sujet nouveau aux oreilles de ces petites filles.
Ma camarade, parce qu'elle ne fréquente pas son père, elle dit qu'elle va aller au mariage.
Elle avait quel âge?
Elle avait 15 ans, 14 ans.
J'ai entendu que beaucoup de filles sont un peu désordonnées. C'est pour cela qu'on les envoie en mariage, pour qu'elles ne se gâtent pas dehors.
La liberté de ton de ses élèves sur le mariage précoce contraste avec celle de l'administration et du personnel enseignant de l'école. Ici, le sujet est jugé très sensible. Il heurte les conceptions traditionnelles, voire islamiques, du mariage, nous confie hors micro une responsable de l'école. Du coup, c'est par le canal des associations que les dénonciations et le coût de certaines jeunes filles victimes du mariage précoce au quartier Briqueterie se font de plus en plus. L'une d'elles, basée dans ce quartier populaire, lutte contre les violences faites aux femmes. Ango Manga, directrice de l'antenne du centre à Yaoundé.
Les cas issus de la piqueterie, le premier cas concerne une jeune fille que sa tante a envoyée islamiquement en mariage récemment au mois de novembre. Toujours la famille a profité du fait qu'elle ne connaît ni lire ni écrire pour lui demander de signer un papier qui était l'acte de mariage polygamique. Et l'autre cas, c'est qu'ils ont eu déjà 4 enfants, mais le monsieur est parti chez ses 2 premières épouses. Elle est retournée dans sa famille à elle avec les 4 enfants.
Pour espérer inverser la tendance, la sensibilisation des jeunes filles et parents d'élèves au sujet du mariage précoce qui s'est déporté dans une école publique située à la lisière du quartier Briqueterie. Madame Josie Berthe, directrice école publique groupe 1 des Koudou.
Il y a Plan et Afadem qui nous aident à travailler ensemble avec les jeunes filles de l'école pour éviter le mariage précoce. Et on les amène à comprendre que l'école est nécessaire plus que d'aller vite se marier.
Est-ce qu'il y a déjà eu des cas de jeunes filles préposée pour le mariage précoce?
Beaucoup. Il y a même une autre qui a quitté l'année passée, au moins elle est partie. Après la fin de l'année, elle me disait qu'elle va se marier au mois de juin.
Et dans la vaste campagne de lutte contre le mariage précoce au quartier Briqueterie, les dignitaires musulmans ont été mis à contribution. Docteur Hayatou Mouamadou, responsable de la prédication dans la région du centre des 2 mosquées de Yaoundé.
Si on trouve certains cas, ça c'est la contradiction de ce qui est mentionné dans les textes révélés. Les imams, les prédicateurs, ceux qui portent le conseil et ceux dont les voix sont entendues, ont toujours besoin de multiplier d'efforts sur la question dans la sensibilisation.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on célèbre la Journée internationale des femmes, avec un focus sur l'évolution des femmes dans le monde du travail. L'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, de revenir sur le courage et la détermination de femmes ordinaires ou non, qui jouent un rôle dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Quelle place pour les femmes au cœur de la mondialisation et des révolutions technologiques? Quelles sont les nouvelles opportunités? Où en est leur autonomisation économique en Afrique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Un fonds bleu pour gérer les eaux dans le bassin du Congo. 9 pays membres du bassin ont signé ce 9 mars à Oyo, à environ 400 km au nord de Brazzaville, un mémorandum d'entente en vue de mobiliser les financements à cette fin. Notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngousso, était à Oyo.
Il s'agit d'un mécanisme de financement des projets visant à préserver les ressources en eau dans les bassins du Congo. L'idée avait été adoptée à la COP22 tenue l'année dernière au Maroc. Ginit Enoa, la secrétaire générale de la conférence des pays du fleuve Congo et du lac Tchad, la CICOS, estime qu'il était temps.
Si vous allez même dans les fins fonds de villages, des populations qui habitent ce grand bassin, vous voyez qu'ils éprouvent des difficultés à cause de cette fameux changement climatique dont tout le monde voit que maintenant on n'a pas le choix que de coopérer.
Au Tchad, les attentes sont importantes par rapport à l'assèchement du lac, selon Brat Mahamat, le ministre en charge de l'environnement.
Moi je pense déjà que si on a une bonne gouvernance, si les textes sont très bien rédigés, nous pourrons véritablement, avec le projet que nous allons mettre en œuvre, atteindre donc la population cible qui sont les bénéficiaires.
Le Fonds bleu prévoit de financer les activités visant à lutter contre la pollution des eaux du bassin du Congo. Alexis de la Rivière, un expert congolais, explique les bien fondés d'une telle mesure.
Il reste maintenant à conscientiser la population, à rédiger les projets qui vont aller dans le sens d'amener les populations à ne plus faire des pratiques de pêche destructives, par exemple. Parce que quand vous allez sur le fleuve Congo, vous trouvez des gens en train de pêcher avec des grenades, avec des poisons, tout. Et la signature de l'accord, là, je pense que c'est une solution aux multiples problèmes qui s'opposent à notre bassin.
La RDC, longtemps stigmatisée pour son éloignement dans les activités du bassin du Congo, revient et son vice-premier ministre chargé des affaires étrangères, Léonard Cheokitundu, parle d'un engagement irréversible du géant de la sous-région.
Franchement, c'est la situation politique interne aussi qui a fait que, qui a donné l'impression qu'on était désintéressé. Mais comme je le dis, nous avions voulu prouver au continent, nous sommes vraiment partie prenante. Nous attendons prochainement la formation de gouvernement de large union nationale. Je vois que là, la question environnementale va revenir au devant de la scène et nous serons à ce moment-là. On va partir de la locomotive, au fait, pour les questions environnementales.
La création du Fonds bleu, initiée par le président Denis Sassou Nguesso, est aujourd'hui entièrement soutenue par le Maroc. Sahaladine Mezoua, président de la conférence COP22, rappelle l'importance de ce fonds pour les pays concernés.
C'est tout l'apport et toute l'expertise que nous allons apporter pour accélérer la mise en œuvre des projets de ces pays. Parce que justement, quand on a un fonds, et quand on a des experts, et quand on a un projet, la mobilisation des ressources pour le financement devient aisée.
Ce fonds sera basé à Brazzaville et logé dans les comptes de la Banque africaine de développement. Nguela Ngousso à Oyo, à 400 km au nord de Brazzaville, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à nom de par Georges Léonard Sagno et Sims Loumani. Richard était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.